Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Les franciscains de Terre Sainte demandent des prières pour la Syrie et supplient les décideurs de travailler ensemble pour parvenir à un cessez-le-feu. Selon le patriarche Melkite de Damas, l'Occident doit à tout prix éviter d'envoyer des armes à l'opposition. Cela ne ferait qu'augmenter le nombre des veuves et des orphelins. Dans le climat de soi-disant nouvelle liberté qui bouscule les fondements anthropologiques de toute société humaine, le débat est devenu impossible. Au lendemain de la décision de la Cour suprême américaine sur le mariage gay, le journal du Vatican hausse le ton, alors qu'en France, le mouvement contre la loi Taubira ne faiblit pas, malgré la répression policière. Le pape François se félicite du travail accompli par la commission mixte catholique orthodoxe. Elle se penche actuellement sur une question délicate et cruciale, le rapport entre primauté et synodalité dans la vie de l'Église. L'Église catholique elle-même a engagé une réflexion sur le sens de la collégialité épiscopale et sur la tradition synodale qui caractérise les églises orthodoxes. Salvatore Romano déplore le matraquage médiatique qui a entouré aux États-Unis la décision de la Cour suprême sur le mariage entre personnes de même sexe. Le quotidien du Vatican ironise sur ces pseudo-victoires de la liberté qui sont en fait le fruit de campagnes idéologiques qui ne respectent pas ceux qui ne sont pas d'accord. Les adversaires sont considérés comme illégitimes et réduits au silence, alors que l'opinion publique est soumise à un véritable conditionnement. En France, le maire d'Arcangues, qui refusait d'unir dans sa commune un couple d'hommes au nom de la liberté de conscience, a dû céder, après avoir appris qu'il s'exposait à une amende de 1 000 euros par jour. Un de ses adjoints a finalement accepté d'officier. Mais le maire entend continuer son combat et dénoncer les vides juridiques de la loi Taubira. Et il n'est pas le seul, Antonino Gallofaro.
À Lyon, comme à Lille et dans toute la France, des veilleurs debout manifestent depuis quelques jours dans le calme, sans bruit, sans mouvement, pour dire leur attachement au mariage entre un homme et une femme et leur indignation contre l'emprisonnement du jeune Nicolas, un des leurs, condamné à 2 mois de prison ferme. Il se relaie spontanément pour une protestation immobile. Le principe est inspiré d'un protestataire turc devenu célèbre. Mardi à Paris, ils auraient été dispersés par la police sans avoir enfreint le code pénal ni troublé l'ordre public. Ils auraient l'impression que les moyens démocratiques leur sont de plus en plus fermés. Selon eux, le nombre de participants est toujours minimisé et les violences exagérées. Le Conseil de l'Europe a lancé un avertissement à la France contre l'usage disproportionné de la force contre les manifestants. En Grande-Bretagne, les manifestants occupent régulièrement le trottoir face à la résidence du Premier ministre, arborant des pancartes et criant des slogans. Aux États-Unis, les manifestations devant la Maison-Blanche sont également régulières. Mercredi, 2 veillées importantes ont eu lieu à Paris et Strasbourg, signe que le mouvement n'est pas près de s'éteindre.
2 ans après avoir organisé une conférence sur l'adoration eucharistique, Mgr Dominique Ray est revenu à Rome cette semaine pour souligner combien la formation liturgique et sa correcte célébration sont essentielles à la vie et à la mission de l'Église. Pour l'évêque français de Fréjus-Toulon, la liturgie a un rôle fondamental dans la nouvelle évangélisation et à ce titre, il a réuni plus de 300 personnes de quelque 33 pays différents pour une conférence internationale sur la Sainte Liturgie à l'Université Pontificale de la Sainte-Croix à Rome, organisée dans le cadre de l'année de la foi, 50 ans après le Concile Vatican II. On écoute Mgr Ray.
On est dans un monde qui est un monde sécularisé et qui a besoin de retrouver le sens de la sacralité. Qu'est-ce que nous dit la liturgie ? Elle nous dit le primat de la grâce de Dieu sur toutes nos initiatives personnelles et nos entreprises apostoliques. Elle nous dit, la liturgie, qu'il faut remettre finalement le monde à sa place et dans l'axe de Dieu. Réfléchir sur la liturgie, sur la place de la liturgie, au cœur de l'Église, de la conversion pastorale que l'on doit vivre, me semble aujourd'hui véritablement une priorité.
Le sous-titre un peu de cette rencontre, c'est « Renouveler la formation liturgique, le sens de la célébration ». C'est parce qu'il y a un manque ou c'est une occasion pour approfondir ça ?
Je crois qu'il nous faut revenir à cet apport majeur de la réforme liturgique du Concile, Sacrosanctum Concilium. Et il y a eu, après le Concile, un certain nombre de dérives, de dérapages On a bradé la célébration du mystère dans un certain nombre de lieux. Il y a eu des recherches aussi liturgiques qui m'ont été particulièrement intéressantes. Et donc c'est l'idée de faire un point ensemble, de se poser, et dans le contexte aujourd'hui de la nouvelle évangélisation, de réfléchir sur, je dirais, les fondamentaux, revenir aux fondamentaux de la liturgie, voir les points particulièrement d'insistance. On voit par exemple que l'apport de Benoît XVI dans cet effort d'herméneutique de la continuité, dans le motu proprio, sur la possibilité aussi de célébrer la messe sous la forme extraordinaire. Il y a là des choses qui nous bousculent, on doit en prendre la mesure. On va être dans une église qui sera marquée, je crois, dans les temps qui viennent, par la grande biodiversité. Alors comment retrouver les fondamentaux, penser la vie, l'église, dont la célébration est le cœur, le centre, la source, le sommet, penser l'avenir de nos communautés à partir d'un renouveau liturgique.
Quand vous parlez de renouveau liturgique, vous pouvez développer un tout petit peu ?
Bien, le renouveau liturgique, il est particulièrement visible dans un certain nombre de lieux. Je pense à des monastères, je pense à des communautés nouvelles. On en a beaucoup parlé, qui ont fait des recherches liturgiques pour redonner le sens de la vraie rencontre avec le Christ qui se fait dans la liturgie, en particulier dans la célébration eucharistique. On parle de renouveau liturgique aussi à partir de l'expérience de cette rencontre vécue entre la forme ordinaire et la forme extraordinaire, qui me semble quelque chose d'assez prophétique et qu'a bien voulu donner à l'Église le pape Benoît XVI. C'est prendre la mesure de tous ces efforts qui sont encore parcellaires pour se dire il y a quelque chose d'essentiel qui va se jouer dans l'ordre de l'évangélisation dans les temps à venir, c'est que ça doit repartir de la liturgie, que la liturgie doit retrouver un nouveau souffle. On doit quitter des formes banalisées d'expression liturgique, réduites à simplement une animation subjective, à une auto-célébration, comme le dit souvent Benoît XVI et à sa suite le pape François, retrouver le sens de Dieu, le sens du sacré, le sens du sacrifice. Et la liturgie, c'est pas simplement l'acte liturgique, c'est aussi tout ce qui fait la liturgie, les chants, la musique, l'iconographie. On a parlé de tout cela au cours de ces journées. Finalement, c'est tout un patrimoine qui est là comme un espace, une nouvelle temporalité qui nous donne accès au mystère même de Dieu. Dans la vie liturgique, je suis au contact avec l'éternité même de Dieu tout en le vivant dans l'instant présent.
La doctrine liturgique de Benoît XVI a été pour vous, je crois, une source d'inspiration importante. Cette rencontre a été convoquée avant la démission de Benoît XVI. Le pape François, lui, on le voit, va vers une simplification. Comment vous positionnez par rapport à ça ?
Alors, il me semble que le pape François, c'est pas spécifiquement exprimé sur la liturgie, mais en étant extrêmement simple, veut s'inscrire dans ce que le pape Benoît XVI, son prédécesseur, a fait au niveau de la liturgie. Enfin, c'est ce que je pense. Il n'est pas là en train d'organiser une révolution liturgique. Il y a beaucoup de choses qui ont été données. Il y a toute une réflexion, un patrimoine de recherche sur l'intelligence de la liturgie. J'en ai parlé à propos de l'accueil de la forme extraordinaire du rite, de l'arche célébrandi, l'esprit de la liturgie qu'a promu le pape Benoît XVI. Je crois que le pape François veut s'inscrire dans cet élan même. Il n'a pas d'ailleurs changé, par exemple, de cérémonière. Lorsqu'on regarde les belles liturgies qui rassemblent énormément de monde, on le voit célébrer en se coulant dans, on dirait, le cérémoniel qui était prévu pour son prédécesseur.
Monseigneur Dominique Ray, interrogé par Marie Duhamel. Un nouvel évêque en France, le pape François, a nommé auxiliaire de Reims l'abbé Bruno Feyer, âgé de 54 ans, originaire de la Gironde. Il a été ordonné pour l'archidiocèse de Cambrai. Ses ministères ont été diversifiés depuis 2009. Il était curé doyen de Valenciennes et délégué diocésain à la formation permanente. Un homme de Dieu plein de souffle et de dynamisme, selon Mgr Thierry Jordan, l'archevêque de Reims, qu'il va seconder. L'abbé Bruno Feyer, le premier évêque français nommé par le pape François. Il recevra l'ordination épiscopale le 22 septembre en la cathédrale Notre-Dame de Reims. Il devrait résider dans les Ardennes, comme c'est de tradition pour l'auxiliaire de l'archevêque de Reims. « La custodie de Terre Sainte a démenti vendredi à la mi-journée la mort de 3 moines en Syrie. RFI, Radio France Internationale, avait annoncé quelques heures plus tôt que 3 moines franciscains avaient été condamnés à mort et décapités le dimanche 23 juin par des rebelles djihadistes du front Al-Nosra en Syrie. Les 3 hommes étant accusés d'entretenir des liens avec le régime de Bachar al-Assad. Toujours selon RFI, la vidéo de cette exécution macabre aurait été publiée sur Internet. Des nouvelles sans fondement, selon la custodie de Terre Sainte. Reste que la situation est grave en Syrie. Des voix s'élèvent pour dénoncer la passivité de la communauté internationale. Olivier Tosseri.
Les églises de Syrie et du Liban lancent un appel à l'Union européenne lui demandant de ne pas armer les rebelles. Grâce à l'intervention de la Fondation Aide à l'Église en détresse, une délégation des églises chrétiennes syriennes et libanaises a pu se rendre à Bruxelles pour exposer la situation aux responsables et aux parlementaires européens. Selon eux, la Syrie regorge d'armes, même les enfants brandissent des fusils. En envoyer d'autres ne ferait qu'accentuer l'escalade de la violence. Ils ont obtenu de la part de certains élus européens la promesse qu'ils feront tout leur possible pour trouver une solution diplomatique. La Syrie et les territoires palestiniens étaient au cœur d'une rencontre entre le pape François et la directrice du programme alimentaire mondial des Nations Unies. Madame Cousin a fait part au Saint-Père de son inquiétude quant à la crise humanitaire en Syrie. Elle a par ailleurs fait état d'une aggravation de la situation alimentaire des familles à Gaza et en Cisjordanie. Elle s'est dite impressionnée par l'intérêt porté par le pape François à la lutte contre la faim dans le monde. La directrice du PAM pense que l'Église catholique a un poids considérable en matière de lutte contre la pauvreté et d'efforts de pacification. Elle a supplié le souverain pontife de continuer à exercer cette influence. Le PAM collabore notamment avec Caritas, Sant'Egidio et le JRS.
J'ajoute que le pape François a confirmé la réélection du père Pierre-Baptiste Pizzaballa à la tête de la custodie de Terre Sainte pour un nouveau mandat de 3 ans. Le père Pizzaballa garde également sa charge de gardien du Mont Sion. Italien, âgé de 48 ans, il vit en Terre Sainte depuis 1990. Et ce sont les derniers jours pour profiter de l'exposition Trésor du Saint-Sépulcre à Versailles. Jusqu'au 14 juillet, découvrez 250 chefs-d'œuvre inconnus offerts par les cours royales européennes à la custodie de Terre Sainte. Envoyés à la basilique du Saint-Sépulcre par les principaux souverains européens, ces extraordinaires œuvres d'art sont pour certaines révélées pour la première fois au public dans les salles des croisades du château de Versailles, dont les décors peints viennent d'être restaurés. L'exposition attire les connaisseurs et devrait se clôturer avec près de 60 000 visites. Retour sur cet événement inédit avec Béatrix Saul, directeur conservateur général au château de Versailles, interrogé par Jeanne Varaldi.
Ce sont les salles des croisades qui font un écrin merveilleux pour tout ce trésor parce qu'il y a vraiment une parenté entre les décors néo-gothiques de la plus belle qualité et le trésor de la custodie. Pourquoi à Versailles ? Il y avait plusieurs circonstances. D'abord parce que je m'attache à remettre en évidence la place que la religion tenait dans la vie de cour. Il se trouve aussi que nous nous étions lancés depuis 2002 dans la restauration des 125 tableaux qui illustrent les croisades, justement dans les 5 salles des croisades. Donc ça, c'était le deuxième argument. Et le troisième argument, qui n'est pas le moins fort, c'est que nous nous sommes toujours, dans nos expositions, appliqués à évoquer des aspects disparus de Versailles en recourant à des collections étrangères. Toute l'orfèvrerie française royale a été fondue. C'est dans les cours étrangères que l'on trouve des services qui ont été faits par les orfèvres qui fournissaient le roi de France. C'est aussi avec ces collections pouvoir parler des vases sacrés, des ornements liturgiques qui étaient à la chapelle royale et que malheureusement nous n'avons plus.
C'est donc une exposition de très grande ampleur avec plus de 250 chefs-d'œuvre présentés. Et quelles sont selon vous les pièces maîtresses de cette exposition ?
Pour un public français, et en particulier pour les conservateurs de Versailles, tous les présents de Louis XIII, de Louis XIV et de Louis XV nous intéressent tout particulièrement. C'est absolument unique. Alors, le plus extraordinaire, ce sont les présents qui ont été offerts par le royaume de Naples et des deux Siciles au XVIIIe siècle. Un baldaquin eucharistique en or massif, avec ostensoire en or massif, qui est absolument là aussi unique dans toute l'Europe. L'exposition se termine avec tous les dons napolitains. Et là, c'est le grand antépendium de la Pentecôte en argent. Ce sont les candélabres de plus de 2,50 m venant de Venise. C'est le grand bas-relief de la résurrection qui est un véritable chef-d'œuvre. Je dirais que c'est un enchantement de vitrine en vitrine et en même temps une très grande diversité. Tous les spécialistes qui viennent voir cette exposition sont absolument ahuri. C'est extraordinaire. Tous ces objets ont une histoire et en même temps ce sont des chefs-d'œuvre de l'art.
À quelle image et rôle historique de la présence des franciscains en Terre Sainte cette exposition renvoie-t-elle ?
Tous ces présents sont des aumônes offertes par des gens humbles, aussi par des princes, pour que la présence franciscaine et donc la présence de l'Église latine à Jérusalem soit sauvegardée. La présence des franciscains date de saint François lui-même en Terre Sainte, lorsque saint François était parti pour rencontrer le sultan d'Égypte en pleine période des croisades. Et toutes ces aumônes, quelquefois du parmesan, des livres, des médicaments pour une population qui vivait en autarcie, c'était aussi des retables d'or, des vases sacrés. Et bien tout ceci, c'est d'une part pour soutenir la présence franciscaine à Jérusalem et faire en sorte que le culte divin au Saint-Sépulcre soit célébré avec le plus grand faste. Il y avait cette idée que si les princes avaient de très beaux palais, combien Dieu devait-il être davantage honoré encore par les œuvres d'art ? Il se trouve que les rois de France se sont toujours considérés comme les protecteurs des lieux saints. Tout ce trésor est effectivement un poids d'histoire absolument considérable et qui n'est pas si étranger que ça à Versailles.
La recherche de l'unité est une urgence à laquelle les chrétiens ne peuvent pas se soustraire. C'est le pape François qui l'a affirmé ce vendredi matin. Il recevait les membres de la délégation du patriarcat œcuménique de Constantinople, venus à Rome à l'occasion de la fête des saints Pierre et Paul. Plus que jamais, les chrétiens doivent offrir un témoignage commun dans un monde qui a faim et soif de vérité, d'amour, d'espérance, de paix et d'unité, a-t-il dit. Cette année, la délégation est emmenée par le métropolite de Pergame, Jean Zizioulas, coprésident avec le cardinal Koch de la Commission mixte internationale pour le dialogue théologique entre les églises catholiques et orthodoxes. Le Saint-Père a salué l'échange traditionnel de délégations entre les deux églises à l'occasion de la fête de leur saint patron, une tradition qui remonte à 1969. La rencontre personnelle, a-t-il dit, est essentielle sur le chemin de l'unité. Le compte-rendu de Xavier Sartre.
L'œcuménisme est une urgence à laquelle nous ne pouvons pas nous soustraire. Le pape François ne peut pas être plus clair. Et c'est à nous qu'incombe la tâche de préparer les conditions de l'unité et de cultiver le terrain du cœur. C'est dans cette optique que le pape a salué le travail mené par la commission mixte sur la relation théologique et ecclésiologique entre le primat et la synodalité dans la vie de l'Église. Il s'agit pour le pape de connaître parfaitement les traditions réciproques pour les comprendre et pour également apprendre d'elles. Certes, il ne faut pas occulter ce qui sépare catholiques et orthodoxes, mais le pape François préfère souligner ce qui unit et ce qui peut rapprocher. Par exemple, le partage de la même conception du dialogue qui ne cherche pas un minimalisme théologique sur lequel un compromis peut être atteint, mais qui, au contraire, s'appuie sur l'approfondissement de l'unique vérité que le Christ a donnée à son Église. Cet optimisme pousse le pape à exhorter ses interlocuteurs à ne pas avoir peur de la rencontre et du vrai dialogue. Il ne nous éloigne pas de la vérité, il nous mène au contraire, sous la conduite de l'Esprit de la vérité, à toute la vérité.
Et le souverain pontife a demandé à la délégation orthodoxe de prier pour lui et pour son ministère. J'en ai tant besoin, a-t-il lancé. Ce samedi matin, la délégation orthodoxe assistera à la messe solennelle présidée par le pape François à l'occasion de la fête des saints Pierre et Paul. Au cours de cette célébration, le Saint-Père remettra le pallium à une trentaine de nouveaux archevêques. La prestigieuse chorale luthérienne de Leipzig chantera avec la chapelle Sixtine. La musique, en quelque sorte au service de l'œcuménisme. L'année dernière, c'est le chœur anglican de l'abbaye de Westminster qui avait fait le déplacement jusqu'à Rome. La célébration débutera à 9h30 dans la basilique Saint-Pierre. Elle sera retransmise en direct par Radio Vatican avec commentaires en français vers l'Afrique sur 21 740 kHz, pour la région de Rome sur 103,8 MHz, en audio et vidéo sur le player de Radio Vatican canal 2 et 7 à l'adresse www.radiovaticana.va. Un prélat italien a été arrêté vendredi en même temps qu'un membre des services secrets italiens et un intermédiaire financier dans le cadre d'une enquête de la justice italienne sur l'IOR, l'Institut pour les œuvres de religion. Les trois hommes sont soupçonnés de fraude et corruption. Employés de l'APSA, l'administration du patrimoine du siège apostolique, l'organisme qui gère les biens du Saint-Siège, Mgr Nunzio Scarano a été suspendu il y a plus d'un mois quand ses supérieurs ont su qu'il était sous enquête. Et ce conformément au règlement de la Curie romaine, a indiqué le directeur du bureau de presse du Saint-Siège. En qualité d'employé du Vatican, Mgr Scarano pouvait avoir un compte auprès de l'IOR. Le père Federico Lombardi a précisé que le Saint-Siège n'avait pas encore reçu de requête de la part des autorités compétentes. Le Saint-Siège qui confirme sa pleine collaboration avec la justice italienne. C'est la fin de notre émission, mais vous pouvez nous écouter, nous réécouter et nous lire à tout moment sur notre site internet. Rejoignez-nous également sur Facebook Radio Vatican en français, sur Twitter et sur nos applications. Merci de votre fidélité et bonne fin de semaine à tous.